Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale que dirige Pierre Hiverna. Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
En fin d'émission, à 12h25, vous proposerez la chronique La Cerise sur le gâteau. Aujourd'hui,
je vous emmène au Salon International de l'Alimentation et je vais vous parler de l'alimentation de demain.
À tout à l'heure. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez chaque semaine la Madeleine de, le souvenir gustatif d'une personnalité. Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, Juliette Binoche.
À tout à l'heure, aux alentours de 12h15. Eh bien, aujourd'hui, le chocolat dans tous ses éclats, c'est notre plat du jour.
La troisième concurrente, toute souriante, c'est Sandra numéro 2. On applaudit Sandra numéro 2. Et d'où tu viens alors?
De Noisiel, où qu'on fait du chocolat.
Tu habites dans un pays où on fait du chocolat?
Oui.
Est-ce que tu en manges beaucoup?
Ben là, j'en sais rien, moi. Parce qu'on n'en achète jamais.
Vous savez que c'est une fille qui est très malheureuse? Pas de chocolat.
C'est pas mal, non, pour entamer cette émission. Bonjour Pierre Mercolini.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes chocolatier. On peut même dire que vous êtes l'un des meilleurs chocolatiers de France, de Belgique, du monde. Allez, du monde.
Allez, soyons fous. Je sais pas si je suis le meilleur, mais en tout cas...
L'un des meilleurs, j'ai dit, parce que le meilleur, c'est...
Bien sûr, effectivement, ou même l'un des meilleurs. J'essaie en tout cas de faire les choses avec conviction et avec passion. Et c'est ce qui me trace, en tout cas, dans ce que je fais. Il y a quelques années... J'ai repris mon bâton de pèlerin au niveau du chocolat puisque j'ai décidé de repartir à partir de la fève de cacao, ce qui paraît pas évident aujourd'hui un peu plus, mais et puis de découvrir effectivement que derrière le mot chocolat, il y avait des terroirs, il y avait des origines, il y avait des gens. Et quand vous voyagez, puisque aujourd'hui je suis à plus de à peu près 200 000 km par an, pour découvrir justement cette fève de cacao rare.
Bonjour à vous Michel Barrel.
Bonjour.
Alors vous êtes un expert en cacao et grand amateur de chocolat, je pense que vous en dégustez quelques-uns aussi.
L'un va avec l'autre.
L'un va avec l'autre. Donc vous devez un certain nombre d'ouvrages. Quel est le meilleur chocolat? 90 clés pour comprendre le chocolat aux éditions Quahé, et puis du cacao au chocolat avec des images qui donnent très très envie de manger du chocolat. C'est l'épopée d'une gourmandise. Nouvelle édition, parce qu'il y en a eu plusieurs. Moi j'ai la nouvelle édition sous les yeux, bien sûr.
Il y en a eu plusieurs. Ça donne envie de manger, d'aller sur le terrain, mais ça donne aussi envie de manger du chocolat.
On a la chance d'avoir avec nous un... Alors, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, un chocolatier, on dit un artisan chocolatier, un maître chocolatier. Quelle différence feriez-vous d'ailleurs entre les deux, Pierre Marcolini?
Moi, je garde le mot artisan. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, le côté maître, on a l'impression qu'on est à l'aboutissement. Et puis, artisan, parce que dans le mot artisan, il y a le deuxième mot qui suit derrière, c'est la transmission. Et pour moi, je suis dans cette transmission. On est plus de 80 artisans à Bruxelles, à l'atelier où... On a plus de 3000 mètres carrés, mais je peux vous garantir que la manière de procéder, la façon de faire, le savoir-faire de travailler à partir de la fève de cacao, c'est-à-dire la torréfaction, le conchage, le broyage, arriver à maîtriser cette matière et essayer d'en extraire le maximum d'arômes, tant sur la partie torréfaction que sur la partie conchage, c'est l'eau de tous les jours. Et donc là, effectivement... On est plutôt artisans.
Votre maison mère est basée à Bruxelles, mais vous avez...
1h30 de Paris.
Oui, c'est pas loin, 1h30 de Paris, en effet. Mais vous avez essaimé un peu partout dans le monde, Pierre Marcolini. Vous êtes un chocolatier belge au départ, mais vous ne faites pas de chocolat belge au sens, disons, premier ou en sens entendu d'idée reçue du terme. Pourquoi donc, d'ailleurs, je vais me tourner plutôt vers Michel Barrel, pourquoi donc les chocolats belges sont-ils plus réputés qu'ailleurs?
Alors,
il
faut faire la différence. Effectivement, Pierre Marcolini
est
plus un chocolat en Belgique qu'un chocolatier belge.
Ça voudrait dire quoi?
Alors,
on va lui poser la question aussi.
Bon, le chocolat belge a eu beaucoup de succès parce que c'est un chocolat assez gras. Donc là, on sait que la graisse, c'est un fixateur d'arômes, donc qui était très aromatique. Mais on en mangeait une fois et puis on commençait à être saturé. Alors que le chocolat dit à la française, est beaucoup plus petit déjà en taille et certainement moins gras. Ce qui fait qu'on peut en manger plus et se faire plus plaisir. Voilà. Et donc, Pierre Marcolini, lui, il a plutôt embrayé sur ce qu'on appelle aujourd'hui communément le chocolat à la française.
Vous êtes d'accord, Pierre Marcolini?
Je suis d'abord à tout grand merci à Monsieur Barrel, mais je dirais que pour renforcer le propos, la Belgique est une jeune nation 1830. Elle est rentrée assez rapidement, plus rapidement d'ailleurs que la France, sur la partie mécanisation. Et c'est important de parler de la mécanisation, parce que quand on connaît le processus de la création d'un chocolat, c'est quoi fondamentalement ce qui va se passer quand on va broyer une fève de cacao, puisque au départ, une fève de cacao est une épice. Si vous broyez...
Mais parce qu'avant d'être d'une tablette de chocolat, on remonte,
en arrière. Effectivement, si
on
vous
part d'un arbre une épice, et d'un fruit.
Si vous broyez une épice, de la cannelle, du poivre, etc., au plus vous allez la broyer, au plus elle va être aromatique. Et les chocolatiers belges, au début du XXe siècle, ont trouvé ce procédé. Évidemment, maintenant, tout le monde le connaît, c'est-à-dire de descendre en dessous de moins de 25 microns, de raffiner beaucoup plus fin que l'ensemble de l'Europe. Et c'est ce qui a fait la réputation du chocolat belge au début du XXe siècle. Donc, c'est plus dans la partie technique. Après ça, effectivement, comme dit Monsieur Barrel, c'est vrai que le chocolat belge, entre guillemets, ou à la belge, c'est des bonbons de chocolat, ce qu'on appelle chez nous des pralines, qui font entre 15 et 20 grammes, qui sont un peu plus grasses, etc., etc. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme chocolatier belge. C'est vrai que je fais un chocolat en fonction de ma sensibilité, en fonction de mes origines, en fonction de mes voyages. J'ai étudié effectivement en France, donc je fais des ganaches, ce qu'on appelle à la française, comme dirait notre ami Robert Lynx, feu Robert Lynx, qui est le fondateur de la Maison du Chocolat, qui a été considéré comme l'empereur de la ganache. Mais il faut être aussi conscient, et c'est pour ça que je parle de l'Europe. Si on regarde Robert, ben, il a appris, pas à Paris, mais il a appris à l'école de Cobas, qui était plutôt en Suisse. Et donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, arrêtons de parler plutôt de frontières, moi j'ai plutôt tendance à essayer de faire des chocolats en fonction des individus. Vous savez, aujourd'hui, les chocolatiers essaient de faire la même chose qu'on fait dans le monde de la restauration. Quand on va dans un restaurant, on se pose pas la question de savoir d'où viennent les origines de l'individu. On aime sa cuisine, on aime sa façon de cuisiner. Eh bien, moi je pense que les chocolatiers aujourd'hui, à partir du moment où on maîtrise le processus de A à Z, c'est-à-dire à partir de la fève et de pouvoir mettre une identification, de faire une origine, de créer sa propre couverture de chocolat, eh bien, au plus vous allez créer ça, au plus vous allez créer effectivement une personnalisation au niveau de votre chocolat.
Puisque vous parlez des origines, Michel Barrel, on remonte dans le temps, on a appris, là, avec un petit peu d'histoire, grâce à un travail mené par une équipe internationale, d'après des traces archéologiques qu'ils ont trouvées, que les populations de la forêt amazonienne consommaient déjà du chocolat, mais alors pas sous forme de bonbons, ni sous forme de tablettes, sous sa forme liquide, il y a 5300 ans, c'est-à-dire 1400 ans plus tôt qu'on le pensait. C'est joli, c'est émouvant quand même.
Oui, c'est tout à fait émouvant. Et puis on va encore faire d'autres découvertes. Vous savez, le monde du chocolat, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il se passe tout le temps quelque chose et qu'on trouve tout le temps des nouvelles informations. On sait que le chocolat avait été découvert par les Olmecs qui étaient descendus jusqu'à l'origine où sont apparues les fèves, c'est-à-dire dans le bassin de l'Amazone, qu'ils ont remonté leurs fèves ensuite au Mexique. Longtemps, on a cru que c'était le Mexique, le pays d'origine. Pas du tout. C'est le bassin de l'Amazone. Donc, on avait mis le T0 au moment des Olmecs. Et puis, en fait, on se rend compte que les populations locales de l'Amazonie de l'époque consommaient déjà du cacao. Je dis pas du chocolat parce que je pense pas que ce soit un produit élaboré. Il devait plutôt sucer les graines et consommer la
pulpe. Là, c'est sous forme liquide même, hein.
Sous forme
il y a 5300 ans,
oui,
ce que dit l'étude.
Je pense qu'on peut remonter encore plus loin dans le temps. Bon, pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques pour le prouver. Mais je pense que les premières populations consommaient, comme les animaux le faisaient, consommaient la pulpe de cacao, qui est très agréable. C'est sucré, c'est un petit goût de bonbon anglais. Et si vous avez la chance de tomber sur une cabosse de cacao, sucez la pulpe, c'est extraordinaire.
Oui, parce que la cabosse en question dont vous parlez, c'est le fruit.
Hein, la cabosse, c'est la fève. Le fruit.
Alors, c'est pas un petit bonbon, hein, c'est un gros bonbon. Et ça pousse le long du tronc du cacaoyer.
Le tronc et les grosses branches du cacaoyer, c'est une des premières particularités du cacao, mais il en a plein d'autres.
Vous dites dans un de vos ouvrages que vous avez écrit, Michel Barrel, que c'est gros comme un ballon de rugby.
Ah oui, alors, un petit ballon de rugby, oui. Et ça contient une quarantaine de graines entourées donc de cette fameuse pulpe qui a des goûts de litchi, de mangue, de fruits tropicaux, très très agréables. Et c'est ces graines ensuite qui vont subir différentes transformations et qui vont conduire à la matière première des chocolatiers.
Et il y a plusieurs variétés, Pierre Marcolini, de cacaoyer. Oui. Les trois principales ont pour nom le cri le Forastero et le National, c'est ça qui
Trinitario
donne...
Trinitario aussi.
Et le Trinitario, alors il y en a quatre en fait, on dit.
Non.
Ah, Michel Barrel.
Non, le Trinitario c'est un hybride entre Criollo et Forastero. Avec un tout petit bémol, c'est que des chercheurs généticiens viennent de découvrir il y a quelques années que le Forastero n'existe pas.
Donc il n'y en a plus que deux.
Alors non.
Il y a un hybride, il y en a un qui n'existe pas.
Le Forastero a éclaté entre une grosse demi-douzaine d'autres variétés. Et en fait, on se rend compte que quand les Espagnols, qui connaissaient le Criollo du côté mexicain, quand ils sont descendus dans leur colonisation, ils ont découvert un autre cacao qui ressemblait pas du tout au premier. Donc ils ont dit, il faut qu'on le nomme. Jusque-là, ça s'appelait cacao pour eux. Donc ils ont dit le nôtre, celui de notre origine, on va l'appeler le créole, criollo en espagnol, et l'autre, on va l'appeler l'étranger, forastero en espagnol. Mmh. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, à la lumière de ce qui a été découvert par les scientifiques, que ce mot forastero désignait pour eux un non-criollo plus qu'une variété. Ça voulait dire « c'est pas du criollo ».
Mais c'est quand même ça qui donne tantôt un goût floral, tantôt un goût épicé, tantôt un goût herbacé. Enfin, c'est différentes variétés, Pierre Marcolini.
Je pense aujourd'hui, effectivement, que... En tout cas, il y a une chose qu'il faut arrêter de penser, c'est que c'est le pourcentage de cacao qui va déterminer la partie aromatique. Ah oui. Ça, c'est complètement absurde. Vous savez, c'est comme quand on me dit « Oh Pierre, j'ai bu une très très belle bouteille de vin, 12,5 d'alcool ». Avec ça, on n'est pas avancé, on ne sait pas si c'est un Syrah, Cabernet ou quoi que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, on se prive évidemment de ce genre de choses, c'est de comprendre. Alors après que... On essaye de découvrir, puisqu'on est au balbutiement par rapport au thé, par rapport au café, par rapport à d'autres produits, on est au balbutiement de découvrir, puis il y a eu beaucoup d'hybridation et de choses qui ont été faites, mais dans les grandes lignes, si on veut partir sur des principes, effectivement, on peut se dire qu'il y a à la fois un côté floral, il y a un côté fruité, il y a un côté herbacé, il y a un côté épicé.
Vous dites qu'il y a autant de différences entre les fèves de cacao que les cépages dans une vigne.
On pourrait les trouver de cette manière-là, effectivement.
D'ailleurs, c'est toujours les mêmes termes qui sont utilisés.
Ils sont les mêmes termes. Là, je reviens d'une plantation qui se trouve du côté du Sambirano. Donc la plantation Mava, je pense que Michel la connaît. Et donc, pour vous donner une idée, 150 hectares, 7 endroits de plantation, et bien malgré ça, avec ces 7 endroits, pourtant un sol qui pourrait être identiquement le même, la manière de travailler, et bien on a 7 types de chocolats qui sont différents. Et c'est ça qui est magnifique. Moi, ce que je rêve, quand on me dit c'est quoi le chocolat de demain, c'est que si demain les artisans repartent à partir de la fève de cacao, travaillent chacun leur fève de cacao, leur manière de travailler, que ce soit un forastero, que ce soit un criollo, que ce soit un trinitario, que ce soit un d'autres types de fèves. Ce qui devient intéressant, c'est de voir comment chacun s'approprie la fève. Vous savez, quand vous regardez dans le monde du vin, pour que nos éditeurs comprennent, quand on a des grands vignerons, que ce soit Cuilleron, Villard, etc., qui travaillent une Syrah, ce qui est intéressant de voir, c'est comment chacun travaille, aborde cette grappe, ce raisin. Eh bien, je pense que demain matin, et on a le mouvement Bean to Bar, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, etc., on sent effectivement que c'est la manière dont chacun va travailler. Il y a une des fèves qui est le plus connue, qui s'appelle le Chuao aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de comparer comment chaque chocolatier s'est accaparé cette fève et comment il l'a travaillée.
Michel Barrel.
Avec un certificat, Michel. C'est l'aspect humain. On se posait la question du mot qu'il fallait utiliser pour désigner Pierre Marcolini. Je dirais presque un artiste pour moi, parce que quand on voit ces gens qui ont fait goûter un chocolat et leurs yeux se perdent à l'horizon et puis tout d'un coup ils disent « je sais ce que je vais en faire », dans leur tête, ils font la palette. Ouais. Donc pour moi, ce sont des artistes.
Et vos fèves, Pierre Marcolini, proviennent de 12 pays différents.
Fermes. Moi, je travaille en direct. Alors, donc 12 pays, mais chaque fois en direct avec les gens.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en plus du talent de tous ces artistes, il y a les origines, il y a les terroirs. De la même façon que pour les vins, il y a des terroirs. Pour le cacao, il y a des terroirs qui sont aujourd'hui relativement peu connus. Et demain, ça va être une explosion.
Bon, vous savez quoi ? Comme vous parlez tous les deux de la comparaison avec le vin, qui a une façon de le goûter particulier. Vous dites même, Michel Barrel, que c'est comme avec le vin d'ailleurs. Ça commence par le regard, en plus ça continue avec le bruit de la cassure, avant même l'odeur et le goût. Eh bien, en attendant la Madeleine de Natacha Triou, je vous propose, puisque Pierre Marcolini nous a apporté quelques tablettes, d'ouvrir ce carré de chocolat rieur qui nous vient de Madagascar. Je vous laisse faire et puis nous allons le casser et le déguster. C'est l'heure de la Madeleine.
Vous voulez un chocolat ? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et lui, il est déjà en train d'en manger. Natacha Triou, alors, cette madeleine du jour.
Je ne m'y attendais pas du tout, mais elle est très...
Le hasard fait bien les choses.
Elle tombe à point. J'ai rencontré cette semaine Juliette Binoche et je l'ai un peu surprise avec ma question, mais ce dont elle se souvient immédiatement, c'est précisément le goût du chocolat, les bienfaits et les vertus du chocolat. Elle nous raconte la douceur des pains au chocolat de sa grand-mère.
Je peux vous parler d'une barre de chocolat que me donnait ma grand-mère quand j'étais en pension. Elle était cuisinière. Et donc à 4 heures, elle nous donnait des barres de chocolat entourées de pain qui restaient du midi. Et c'est vrai que le goût du chocolat a toujours été lié à cette grand-mère et à une sorte de solitude aussi dans cette pension. où il y avait le temps de, disons, d'accalmie ou de réconfort venait à cette heure-là. Voilà, vers 4h, 4h30, on était en randonnion devant une petite porte qui avait sa petite fenêtre et on nous donnait chacune et chacun, je crois que c'était que des filles d'ailleurs dans cette pension, mais j'étais toute petite, hein, j'avais 4-5 ans. Et il y avait ce moment du chocolat noir tout bête qui venait adoucir la journée, si je puis dire. Donc c'est pour ça que j'ai lu le scénario au chocolat très très vite et que c'est lié à mon enfance finalement. C'est lié à cette une sorte de solitude, oui.
Ouvrir une chocolaterie juste pendant le carême.
Ah oui, le moment me paraît mal choisi.
Du piment dans du chocolat chaud.
Ça va vous remonter le moral.
Ça ressemble à quelque chose que je buvais quand j'étais enfant.
Et ça, c'est pour votre mari. Fèves de cacao du Guatemala. Pour réveiller sa passion.
Vous ne connaissez manifestement pas mon mari.
Vous n'avez manifestement jamais essayé ça.
Mais le sucré, hein, d'une manière générale, c'est, ça amène de la douceur de la foi. On sait bien qu'il ne faut pas trop en abuser.
Ah, il ne faut pas en abuser, c'est une question qu'on peut poser, hein, parce qu'on sait depuis au moins Napoléon III, Michel Barrel, que le cacao est physiquement et moralement salutaire. Il adoucit la vie dans la journée de Juliette Binoche quand elle est enfant, mais il fait du bien par où il passe, le chocolat.
Il fait du bien, à part les gens qui ont une pathologie particulière. Dans l'ensemble, le cacao est bénéfique pour la santé. On sait que c'est un antidépresseur, mais on ne sait peut-être pas que c'est un solvant du cholestérol, donc il participe à son élimination. On sait également qu'il ralentit le vieillissement de nos cellules. Alors, je dis pas qu'il va faire tout le travail, hein. Il faudrait en manger 200 grammes par jour et ça serait beaucoup,
c'est beaucoup.
Beaucoup trop. Mais si on mange du chocolat très régulièrement.
Non, dit Pierre Morgan, évidemment, mais Marc, il dit non.
Deux ou trois carrés par jour, quatre carrés
enfin,
maximum.
C'est plaisanterie. Surtout mais, ne vous privez pas.
Mais il faut en manger régulièrement et depuis le plus jeune âge et je crois que les effets se cumulent.
Vous l'avez vu ce film dont parle Julien Binoche,
bien sûr,
le chocolat,
oui,
Pierre Marcolini.
Bien sûr. Beaucoup d'émotions parce que on se retrouve effectivement dans ce qu'il y a de plus beau dans le monde du chocolat, c'est cette notion de voyage, cette notion d'émotion, cette notion de plaisir. Quand on voit Juliette qui est occupée à préparer son chocolat chaud, qui met un peu de piment en fonction du caractère des gens, on a ce genre de regard. Moi, ce qui me séduit, ce qui me bouleverse, et encore aujourd'hui, j'ai pas d'explication par rapport à ça. On pourrait se poser la question en se disant, mais au fond, qu'est-ce qui fait que quand on a ouvert en Chine, quand vous découvrez des gens qui n'ont pas une culture du chocolat, et vous leur donnez un carré de chocolat, que ce soit un enfant de 7 ans en pays asiatique ou en Europe, cette même magie s'opère. Il y a à un moment donné des étincelles dans les yeux, il y a une notion de plaisir. Qu'est-ce qui fait que ce produit est universel et qui fait que, peu importe qu'on soit bercé dans la culture du chocolat, il y a un moment donné ce même moment d'émotion.
Alors là, on a ouvert ce chocolat rieur, sans Birano, de Madagascar, votre chocolat, Pierre Marcolini. Vous l'avez goûté, on a vu le plaisir
avec
que
plaisir.
Vous aviez, voilà, hein, voilà. Michel Barrel. Est-ce que vous trouveriez des mots pour parler de ce chocolat?
En général, il y a une caractéristique des cacaos de Madagascar, c'est l'acidité. Alors c'est surprenant, mais la première fois que j'ai goûté un chocolat de Madagascar, il y a très longtemps, je ne l'ai pas aimé parce qu'il était acide, on s'attendait plutôt à avoir de l'amertume. Et puis, je me suis rendu compte que cette acidité légère et agréable, était le support à tout un tas d'arômes de fruits. Okay. Alors j'ai trouvé des arômes de fruits, ça dépend des fermes, ça dépend des années, des arômes de framboise, des arômes de cassis, des arômes une fois de poire extraordinaire. Ce sont des émotions de chaque instant et qu'on peut renouveler à l'infini.
Mais à chaque fois, alors Juliette Binoche disait le chocolat noir tout bête, est-ce que c'est ça le vrai chocolat, le chocolat noir, ou est-ce qu'on peut parler du chocolat au lait, du chocolat blanc comme est-ce qu'il y a un vrai chocolat, Pierre Marcolini?
Ah, mais moi je pense que le chocolat au lait, c'est le chocolat des kikis, c'est le chocolat de la gourmandise, c'est le chocolat...
C'est quoi
des...
les kikis?
Les enfants.
Ah.
Pour moi, c'est le chocolat qu'on mange l'après-midi avec un morceau de pain, c'est un chocolat au lait magnifique avec un peu de fleur de sel, gousse de vanille. Et vous savez, la poudre de lait. Moi, je me souviens quand j'ai fait la première fois mon chocolat au lait, je me suis dit, bon, bah, poudre de lait, point. Eh bien, je me suis rendu compte, les tris en Bretonne, qu'on m'a dit, mais vous voulez quoi? Vous voulez une poudre de lait à 0%, à 23% de matière grasse, à 40% de matière grasse, et vous sortez un chocolat au lait, des conges de donc les conges, c'est l'appareil qui va homogénéiser le chocolat, et vous avez des notes qui sont juste sublimes avec un tout petit peu de caramel derrière, un peu de fleur de sel, et c'est un moment délicieux. Et donc, le chocolat au lait, quand c'est bien fait, c'est vraiment un moment de
gourmandise. Vous ne mettez pas des graisses végétales dans vos chocolats? Vous mettez
que
du beurre.
J'ai jamais entendu
parler de ça. Que du beurre de cacao, malgré la directive européenne.
Mais vous savez que ce qui m'a conduit, j'aime beaucoup ce que vous dites là, parce qu'effectivement, en 2000, j'étais comme tout le monde, il faut que les auditeurs comprennent, il y a les planteurs de cacaoyers qui vendent leurs fèves de cacao à des grands industriels, et ces grands industriels vendent de la couverture de chocolat aux industriels et aux artisans. Je faisais partie de ce genre d'individus. Après, la directive européenne et d'autres choses, il fait que c'est comme ça dans la vie, c'est qu'à un moment donné, on vous pousse un peu. Et j'ai décidé, en 2000, effectivement, de dire, je veux repartir à partir de mon métier de base, au début du XXe siècle, c'est-à-dire à partir de la fève de cacao, de travailler cette fève de cacao.
C'est ça le mouvement Bean to Bar. Hein.
Le mouvement Bean to Bar, c'est ça. Mais c'est pour ça que
qui est l'origine du métier de chocolatier, ben, c'est-à-dire de la fève à la tablette.
J'ai encore regardé la définition avant de venir ici, la définition dans le Tirobert de 2003. Je n'ai pas acheté celui après, mais il est marqué « fabrique son chocolat ». Alors qu'aujourd'hui, on est plus dans « travailler du chocolat pour les chocolatiers ». Mais je pense sincèrement que quand je vois le mouvement Bean to Bar et quand je vois effectivement la jeune génération, on va se réapproprier ce métier-là.
Michel Barrel, Pierre Marcolini dit qu'il vient d'investir le marché chinois. Les Chinois se mettent à aimer le chocolat. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Autrement dit, on parle depuis quelques années d'une éventuelle pénurie de cacao dans les 20 années à venir. Est-ce que Pierre Marcolini participe de la pénurie à venir en allant donner du cacao aux Chinois ?
Il n'y a pas du tout lieu de s'inquiéter. Ça a été un vaste mouvement de spéculation. Il faut se dire que le cacao est un des produits les plus spéculés au monde. Et effectivement, les Chinois sont passés de 40 grammes par an et par habitant à 100 grammes de chocolat. C'est rien comparé aux 11 kilos que consomment les Belges, les Suisses ou les Allemands. Hein ? Et donc, mais l'accroissement est énorme.
Mais pourquoi nous, Michel? Pourquoi?
Parce que les Belges consomment 11 kilos. Bon. Et donc, l'accroissement est énorme, mais ça représente en valeur absolue quelque chose de ridicule. Donc, il ne faut pas du tout s'inquiéter de ça. Et en plus de ça, même si les Chinois se mettaient à consommer beaucoup de chocolat, les planteurs de cacao sont tout à fait capables d'adapter leur culture. Aujourd'hui, c'est presque de la cueillette. Hein. En mettant un petit peu plus d'agronomie, on peut doubler les rendements que l'on connaît aujourd'hui, qui sont à peu près de 400 kilos à l'hectare et qui pourraient passer à 600, 700 kilos à l'hectare assez rapidement.
Pierre Marcolini.
De voyager, de travailler avec, comme je vous le disais, 12 fermes différentes, 12 plantations différentes, la problématique pour eux, c'est pas le fait, effectivement, comme on l'a indiqué, le fait que le marché chinois se réveillerait, c'est surtout la rémunération, et c'est ça qu'il faut parler.
Le juste prix,
le problème, c'est la rémunération. Si demain matin, on ne payerait pas convenablement l'ensemble du vignoble français, je peux vous annoncer qu'en 2050, il n'y a plus de vignoble français. C'est exactement la même situation.
Aujourd'hui, la tonne de cacao se négocie autour de 2 200 $, mais les producteurs sont mal rémunérés, donc c'est ça la question.
Pour vous donner une idée, 2 200 $, ça c'est ce qu'on dit, aujourd'hui le planteur il en reçoit 1 500. Il faudrait pouvoir payer convenablement pour pouvoir vivre de la culture, c'est-à-dire investir, rentabiliser, etc., plus de 3 500 $. Et donc le gros souci qu'il y a, c'est que les jeunes qui sont derrière leurs parents et qui voient ça, comme on l'a dit, c'est difficile, c'est une cueillette à la main, etc., etc., ben ils partent, ils restent pas. Et donc le problème, c'est l'entretien des plantations, à quel prix et de quelle manière. Et donc je pense que dans quelques années, on va avoir deux types de plantations de cacao. D'une façon massive, les CCN50, CCN51, des cacaoyers qui poussent en 18 mois, qui vous font des grosses cabosses, un peu comme la tomate rouge, et ça va faire du volume. Et puis de l'autre côté, il va y avoir ce qu'on appelle des cacaoyers avec des chocolats de dégustation, où on prendra le temps, un peu comme un grand vin, comme un joli whisky, etc. Parce qu'il y a des planteurs, comme on le dit tout à l'heure, qui ont fait un travail remarquable depuis des générations et des générations, et ceux-là ne sont pas remerciés aujourd'hui. Ils sont dans du collecte, et donc ils ne sont absolument pas mis en avant, et c'est dommage parce qu'effectivement, si on veut que les générations suivantes puissent découvrir ce que c'est que des saveurs de cacao, eh bien, je pense qu'il faut entretenir ça par le juste prix.
Donc, artisan chocolatier et chocolatier militant, Pierre Marcolini.
Ah, complètement, oui, ça.
Restez avec nous tous les deux, Michel Barrel et Pierre Marcolini, pour écouter la cerise sur le gâteau qui ne sera pas nécessairement chocolatière aujourd'hui.
Non.
Vous revenez du Salon international de l'alimentation, Pierre Yverna.
Oui, un très grand événement et je voudrais vous donner quelques idées sur la sauce à laquelle les 75% de Français qui font leurs courses en grande et moyenne surface vont être mangés. Je ne parlerai pas de l'aspect économique, même si Didier Guillaume, notre nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, a déclaré cette semaine sur les ondes de France Inter qu'il ne pense pas que les Français sont prêts à payer plus cher pour avoir des produits de qualité, mais bien des produits que nous allons prochainement trouver dans les rayons. Grosse ambition pour petite chronique, pourriez-vous objecter, si je n'avais pas parcouru consciencieusement les allées du CIAL, le Salon International de l'Alimentation. Il faut dire que le CIAL n'est pas tout à fait un rendez-vous comme les autres. Imaginez 7200 exposants, dont 650 start-up venant de 119 pays, 310 000 visiteurs professionnels et des prochaines éditions qui se dérouleront à Jakarta, Abu Dhabi, Toronto, Shanghai et New Delhi. Entendons-nous bien, je ne parle donc pas ici de la mise en rayon des magnifiques carottes bio de votre producteur préféré en circuit court, mais bien de tendances de masse de celles qui vont nourrir quotidiennement une vaste majorité de la planète. Et mettre un produit en rayon en 2018 n'est pas une mince affaire, car, et c'est la première bonne nouvelle de Social, le consommateur passif qui ne se posait pas de questions sur le contenu de ses assiettes et qui gobait n'importe quel produit pourvu que la campagne publicitaire soit bonne, est définitivement en voie de disparition. Le client de supermarché d'aujourd'hui et de demain devient inexorablement un utilisateur d'applis diverses à qui on ne la fait déjà plus question traçabilité ou composition des produits et qui exige la transparence totale. Message visiblement reçu par les industriels, en tout cas c'est ce que j'ai vu aussi.
Est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles qui changeraient encore plus en profondeur la qualité des produits dans les rayons des supermarchés ?
Eh bien Caroline, la réponse est oui. Commençons par la santé. Nombre de fabricants présents au CIAL ont intégré cette dimension-là dans leurs nouveaux produits. Ainsi, pour la première fois depuis longtemps, l'Institut National de la Recherche Agronomique avait installé un stand au CIAL et présenté plusieurs de ses recherches, dont un magnifique chorizo avec, tenez-vous bien, 60% de gras et 40% de sel en moins et un goût fantastique. Autre exemple, le kéfir, cette boisson issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits qui regorge de bonnes bactéries, de vitamines et de protéines. Bien, vous allez en voir plein de multiples versions avec ce produit 100% naturel, quasi sans sucre, qui vont arriver bientôt dans les rayons. Idem pour les céréales du matin pour les enfants qui commencent doucement mais sûrement, visiblement, un long processus d'assainissement. Donc, transparence et santé, mais aussi arrivée massive du végétal qui vient conforter la nette tendance à la diminution de la consommation de protéines animales. Ainsi, énorme provocation de l'entreprise américaine Beyond Meat, en français « au-delà de la viande », qui avait installé son stand au cœur du hall consacré aux produits carnés, avec pléthore de photos de burgers, tous aussi appétissants les uns que les autres, sauf que le steak en question était 100% végétal. Quand on sait que les deux plus gros investisseurs de Beyond Meat s'appellent Bill Gates et Richard Branson, on peut raisonnablement penser que l'idée devrait faire son chemin et répondre à des changements de consommation qui ne relèvent pas d'un effet de mode, mais bien d'une tendance lourde.
Merci Pierre Hiverna pour cette chronique. Effet de mode ou tendance lourde, c'est aussi une question qu'on peut poser, ça sera la dernière. C'est comme dans la mode, le chocolat, on a des saisons et on a des nouveautés à chaque saison.
Heureusement d'ailleurs, je pense qu'effectivement, manger un chocolat à base de fruits de la passion en été, je trouve ça magnifique. Un chocolat à base de marron en été, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je pense qu'il y a une saisonnalité. Je retiens par contre un élément fort et dans lequel on est tous inscrits dans cette tendance, c'est la transparence. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le public, qu'il soit français, qu'il soit européen, qu'il soit même mondial, on le voit très très bien, la tendance c'est de savoir d'où vient ce chocolat, de quelle manière et comment est-ce qu'on l'a traité.
Transparence, éthique et traçabilité. Merci beaucoup Pierre Marcolini, merci beaucoup Michel Barrel. Nous mettrons évidemment tous vos livres, parce qu'ils sont nombreux, sur notre page internet, sur notre émission Les Bonnes Choses. J'annonce juste le livre de Pierre Marcolini, Le chocolat belge, Génération Bean to Bar, aux éditions Racine. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicienne du jour, Alice Seyed, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture. Et dans un instant, ce sera le journal.